voulez savoir pourquoi? Pourquoi on fait dans le ratatiner? Chacun fait son ratatiner à lui. Chacun n'a pas le désir de crever, pourtant chacun voudrait bien vivre. C'est pour ça que chacun regarde la télé. Car dans la télé, ils disent que chacun habite dans un trou. Mais la télé est un trou aussi, et c'est la vie même, c'est-à-dire que chacun tourne en rond. C'est là qu'on a des bords et qu'on peut transporter tout au moins. On dit ça, on dit dans la télé qu'ils disent, vous aurez des poignées. On dit dans la télé qu'ils disent, vous vous transporterez. On dit dans la télé qu'ils disent, faites un gros tas avec tous vos problèmes. On dit dans la télé qu'ils disent, faites un gros trou et jetez tout. On dit dans la télé qu'ils disent, mourrez sans engagement de votre part. On dit dans la télé qu'ils disent, sans obligation d'être vivant. On dit dans la télé qu'ils disent, mourrez après coup de temps.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme quasiment chaque mercredi, entre 9h30 et 10h30. Bonjour. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvie, du groupe Libertaire d'Ivry. Et nous allons continuer à parler du livre « Les inventeurs de maladies » de l'essayiste allemand Jörg Blech. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Et que nous avons déjà... Oui, dont nous avons
8,
déjà
ce sera le chapitre parlé. 8.
Oui, voilà. Et bon, alors un extrait du chapitre 11, intitulé « En pleine forme et fier de l'être ». Et c'est parti. Le commerce de maladies nous promet un destin semblable à celui des habitants de Saint-Maurice, le fameux petit bourg dans lequel le docteur Knock a installé son cabinet. Pour finir, seuls doivent rester en bonne santé les personnes indispensables aux soins prodigués à la foule de grabataires. En pénétrant les domaines personnels et sociaux de la vie, la médecine est devenue, dans les sociétés occidentales, plus puissante que jamais. Ce triomphe de la discipline a trois paradoxes pour conséquence. Premièrement, les coûts du système de santé connaissent une croissance sans limite, sans pourtant que l'on puisse identifier un plus équivalent dans le domaine de la santé. Deuxièmement, les médecins perdent leurs illusions. Le nombre de médecins qui regrettent leur choix professionnel a dramatiquement augmenté. Troisièmement, la population n'est pas le moins du monde en meilleure santé. Au contraire, les gens se sentent de plus en plus malades. Alors oui, il faut rappeler que ce livre a été édité chez Babel, les éditions Babel, en avril 2008.
Hein. Et il est épuisé. Hein.
Paradoxe 1, une explosion de dépenses sans contrepartie. La médicalisation globale de notre vie joue un rôle déterminant dans le fait que les systèmes de santé ne peuvent plus être financés. Les dépenses de la sécurité sociale publique atteignent chaque année de nouveaux sommets. Elles sont passées, alors là on est en Allemagne, hein, de 97,6 milliards d'euros en 1991 à 142,6 milliards d'euros en 2002. Rien qu'en Allemagne, 4,1 millions de personnes gagnent aujourd'hui leur vie au sein du système de santé, ce qui signifie qu'elles tirent leurs revenus du fait que d'autres sont ou se sentent malades. Si la quantité de maladies au sein de notre société était finie, la concurrence des métiers de la santé entraînerait, selon l'experte américaine Lynn Parker, l'apparition d'une médecine bon marché et de qualité. Mais comme le concept de maladie se fonde sur une notion politique fluctuante, explique-t-elle, il est possible de créer la demande en élargissant la définition des maladies. Fin de citation.
Juste une parenthèse, puisque justement par rapport à la progression dans ce domaine-là, quoi, dans le fait que ce seraient les dépenses de santé publique. Il y a eu des mesures, je ne sais pas jusqu'où elles ont été efficaces, mais depuis, je crois que c'est depuis 2008, donc depuis une quinzaine d'années, quoi. Il y a eu quand même pas mal de mesures en France, en tout cas, pour essayer de limiter les dégâts. En haut lieu, je veux dire, par exemple, le fait de dérembourser des médicaments qui sont reconnus comme étant pire que des placebos, puisqu'ils sont à la fois toxiques et inefficaces. Donc, ce qui veut dire qu'auparavant, ben, c'était un truc qui enfin, c'était encore pire que, oui, qu'après, quoi. Oui. Ça veut pas dire qu'après, il reste pas de problème. Oui. Il y a eu cette mesure-là. Il y a eu le fait aussi de devoir passer par un médecin traitant pour aller voir des spécialistes. sinon, c'est pas remboursé. Et puis, je ne sais pas si c'était le cas, mais et si c'est toujours si appliqué que ça, mais il y a l'idée des médicaments génériques aussi qui a pu un peu... je ne sais pas jusqu'où c'est appliqué hein, maintenant. Mais enfin, il y a eu des tentatives pour essayer de limiter un peu, le phénomène. Rien qu'un truc, si tu veux, c'est que je vois, par exemple, quand on a des enfants, on est très, très encouragé à aller consulter pour un oui, pour un non, un pédiatre, pour s'entendre dire qu'il n'a rien du tout, tu vois. Et j'avais entendu dire qu'à une époque, on n'allait pas chez le médecin pour s'entendre dire non, c'est rien, il a fait atchoum parce qu'il y avait de la poussière, quoi, tu vois. C'est, mais grosso modo, c'est un peu ça, quoi. Mais voilà.
Par contre, ce qui pompe un peu la sécu, c'est tout la succession d'actes médicaux, parfois... Pas pertinent des
oui, tout à fait.
Certaines
c'est vrai.
Qui
c'est
sont, qui sont facturées parfois très cher.
Les usagers oui. aussi. Mais enfin, c'est un peu de tous les côtés. C'est un état d'esprit général d'anxiété parce que pourquoi est-ce qu'on devient même hypochondriaque au point, et même qu'on est comme ça anxieux par rapport à, aux enfants, il y a quelque chose quand même de d'anxiogène dans l'air du temps en général qui se traduit dans ce domaine-là. Enfin, je suis pas la seule à penser que dans une société qui serait moins anxiogène, il y aurait nettement moins de, sans parler même de l'aspect purement pratique, c'est-à-dire que par exemple tout ce qui est accident du travail, accident en route vers le travail, etc. Tu as la pollution et tout, rien que l'anxiété ne serait pas la même dans une société qui serait moins anxiogène. Et ça aussi, c'est une bonne part du fait que tu es tout le temps fourré chez le médecin, je pense. Ouais.
Et donc, s'il est bien important qu'on teste le financement offert aux malades réels, c'est tout le système de l'assurance maladie solidaire qui s'effondre. La prescription d'hormones à des femmes qui ne sont déclarées malades que parce qu'elles sont ménopausées coûte chaque année quelques 500 millions d'euros aux caisses de maladie. Autre poste coûteux, les statines, ces pilules miracles qui semblent réduire de manière générale le risque de maladies cardiovasculaires. La Société européenne de cardiologie se bat pour que ces produits continuent d'être prescrits. Mais si l'on suivait à la lettre leur programme de prévention, les dépenses générées par les statines nécessaires seraient, au prix actuel du marché, équivalentes à 2/3 du budget pharmacologique de l'Allemagne, 32,4 milliards d'euros en l'an 2000. La logique de notre système de santé repose toutefois sur le fait que les 20% de malades bénéficient des moyens financiers disponibles et non les quelques 80% de, entre guillemets, malades bien portants. Les sommes gaspillées dans des traitements superfétatoires seraient bien plus utiles ailleurs, dans le traitement de maladies graves ou dans l'amélioration des conditions de travail dans les hôpitaux. La pseudo-médecine consacrée aux petits bobos des couches aisées de la population a en outre de quoi nous faire honte si l'on réfléchit un instant au nombre de gens que l'on pourrait sauver avec cet argent dans les pays en voie de développement grâce à des mesures d'hygiène, à l'accès à l'eau potable et à des campagnes de vaccination. Ça, c'était paradoxe 1. Donc, plus de dépenses, mais pas plus d'amélioration de santé.
C'est juste un bémol par rapport à ce qu'il dit. Oui. C'est que tout dépend ce qu'il entend par amélioration de santé. Parce que, oui, par exemple, sur l'histoire de la ménopause, les femmes des femmes qui prennent un traitement par rapport à la ménopause, oui, c'est par rapport à des symptômes qui peuvent être des fois vraiment très, très déplaisants. Donc, on ne peut pas dire qu'elles sont... ça dépend ce qu'il appelle meilleure santé, mais par exemple ne plus avoir de bouffées de chaleur, il paraît que c'est c'est vraiment très douloureux et désagréable. Ben, elle se sent. Est-ce que c'est être en meilleure santé que de plus souffrir? Si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Si jamais tu as des symptômes comme ça qui sont même physiques et qui vont te pourrir la vie au quotidien, tu vois, c'est parce que tu changes physiquement, par exemple, mais de façon, je sais pas, par exemple, de l'hirsutisme ou des choses comme ça, c'est ou les cheveux qui tombent ou des choses de ce genre. Est-ce que il appelle peut-être pas ça être en meilleure santé, mais est-ce que les femmes prennent vraiment un traitement par rapport à la ménopause ou par rapport aux symptômes de la ménopause, comme ce qu'il disait par rapport à la vieillesse? La vieillesse n'est pas une maladie, mais la vieillesse génère des tas de troubles de santé. C'est pas, tu combats pas la vieillesse, tu combats les troubles cardiaques, de circulation, digestif ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois. Donc je ne sais pas ce qu'il appelle. Faudrait définir ce qu'on appelle être en bonne santé. Si c'est seulement guérir une maladie identifiée ou si c'est par exemple ne plus souffrir de bouffées de chaleur, par exemple. C'est juste un bémol.
Mais d'accord. Oui, enfin, c'est moi qui avais repris cette plus de. Enfin, c'est son terme, c'était un plus équivalent dans le domaine de la santé. Alors, donc ça, c'était premier paradoxe. Deuxième paradoxe, des médecins désabusés. Être médecin est aujourd'hui devenu beaucoup plus frustrant qu'autrefois. De nos jours, le médecin peut s'estimer heureux de voir de temps à autre dans son cabinet au moins un ou deux patients souffrant d'une maladie réelle et qu'il peut véritablement aider. Un patient sur deux se plaint en effet de maladies dont on ne peut attester l'existence. Ces bien portants inquiets que les inventeurs de maladies ont poussé à consulter viennent grossir la charge de travail et la frustration des médecins. Tandis que l'industrie de la santé crée une demande de soins médicaux, les médecins doivent gérer le manque puisque leur budget, lui, n'augmente pas. Avec la médicalisation, la société se décharge en outre chez le médecin de tous les phénomènes désagréables inhérents à l'existence. Les médecins sont ainsi souvent considérés comme les maîtres d'œuvre de la médicalisation, mais ils en sont surtout les victimes. Constantin Rosner...
Arrête-moi si je me trompe, l'auteur est médecin.
Biologiste de formation et journaliste et écrivain scientifique.
D'accord, donc il n'est pas médecin.
Non. Constantin Rosner, médecin généraliste à Bad Neuenahr, en a assez. Quand il lut dans un journal médical que le surpoids, l'adipose, allait enfin obtenir le statut de maladie, il jugea que la coupe était pleine. On ferait mieux de tenter de redéfinir la santé et de distinguer nettement celle-ci des maladies nécessitant un traitement, écrivit-il au journal. Au lieu de cela, la médecine invente des maladies toujours nouvelles qui ne sont pas finançables. L'adipose n'est toujours pas considérée comme une maladie chez nous. Donc c'est une citation de Dr. Rosner. Quel dommage. Et ce, alors qu'il s'agit là de problèmes sociaux. Nous devrions nous défaire de l'idée de toute puissance et nous exercer la modestie, ce qui éliminerait bien des problèmes. Prenons plutôt exemple sur les Égyptiens de l'Antiquité. Pour eux, seul ce qu'ils étaient en mesure de traiter était considéré comme maladie.
C'est un petit peu bizarre. Mais à part ça, aussi c'est un peu flou parce que tu dis adipose. Si c'est genre j'ai 5 kilos en trop et puis je voudrais crâner sur la plage, ou si c'est t'es carrément obèse. Tu vois, je veux dire, c'est quand même pas la même chose. L'obésité, pas à proprement parler une maladie, mais par exemple, je connais une femme qui s'est fait, tu sais, quand elle était réduite, elle s'est fait poser un anneau parce que elle était en danger de mort. Enfin, il faut d'ailleurs, pour bénéficier vraiment du remboursement et même simplement avoir la possibilité de le faire, il faut que d'ailleurs tu passes par un psy, par un médecin, mais aussi par un psy, et parce que c'est pas un truc si évident que ça, quoi. Mais c'est quand même très différent. Je veux dire, arrivé à un certain stade, c'est pas comme j'ai quelques kilos en trop, quoi, tu vois. Donc, quand c'est dit comme ça, effectivement, tu dis, oh là là, font chier, les gonzesses qui te font chier, oh là là, ce pantalon de boudine, parce que j'ai 3 kilos en trop. Enfin, tu vois, et puis quelqu'un qui carrément peut plus se traîner, a des problèmes cardiovasculaires, tu vois, et c'est quand même pas la même chose. Donc, c'est un peu flou, quoi, par rapport à ça.
C'est vrai, oui. Allez, on va passer au paradoxe 3. Des bien portants se font du mauvais sang. C'est bien là le plus grand paradoxe de la médecine moderne. Plus un pays est riche et plus une société injecte l'argent dans le système de santé, plus il est probable que ses membres se sentent malades. Dans bien des cas, dépistage précoce et prévention ne permettent en aucun cas d'allonger la durée de la vie. En revanche, ils augmentent le nombre d'années difficiles. Amartya Sen, prix Nobel d'économie, a déterminé et comparé dans deux états indiens la façon dont les individus jugent leur état général. Le riche état de Kerala ne compte que peu d'analphabètes et chaque habitant se rend en moyenne une fois par an chez le médecin. L'espérance de vie de 74 ans est exceptionnellement élevée. Or, étrangement, les habitants du Kerala jugent leur santé plutôt mauvaise. Dans l'état pauvre du Bihar, les habitants atteignent rarement l'âge de 60 ans et seul un Indien sur 5 consulte un médecin. Pourtant, le taux d'individus qui se sentent malades y est extrêmement faible. Apparemment, les personnes bénéficiant d'un haut niveau d'éducation ont plus tendance à se préoccuper de leurs petits maux et bobos, suppose Amartya Sen. Contrairement à ce qui se passe chez leurs contemporains aisés, les populations d'États plus pauvres ne voient pas leur relatif bien-être assombri par, je cite, « la conscience qu'il existe des États que l'on peut traiter et qui se distinguent des États naturels de l'existence ». Fin de citation.
Je pense que par rapport à ça, c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. On peut voir les choses autrement.
Oui.
C'est pas la question. C'est plutôt que c'est pas tant que les gens plus aisés s'écouteraient plus et puis verraient des bobos là où il y en a pas vraiment. C'est plutôt, à mon avis, que des gens qui sont dans la merde, ils ont déjà tellement de soucis que, à la limite, ils sont résignés à avoir mal aux dents, mal à la tête, une digestion difficile, mal ici, mal là, etc. Et qui vont moins se préoccuper d'eux-mêmes parce que ils sont tellement submergés déjà par des problèmes graves. Et je pense pas. Enfin, ça a quand même un peu. Même le fait, tu vois, sur l'histoire de faire trop de prévention, je suis d'accord que c'est un truc qui peut, si t'exagères, pousser à être hypochondriaque, mais en même temps, t'as quand même un petit peu l'inverse, quoi. Je veux dire, c'est si jamais tu fais pas du tout d'examen quand t'as une grosseur quelque part. Bah moi une fois j'avais une grosseur et puis c'était rien et le médecin m'avait d'ailleurs dit faut bien le dire en réalité une grande majorité des cas, quasiment 90% des cas, c'est rien au bout du compte, mais au cas s'il y a même ne serait-ce que 10% de risque que ce soit une tumeur, c'est quand même on n'a pas tant avancé dans la médecine pour les soigner que dans la prévention justement, mais il vaut mieux l'avoir fait pour si tu as la possibilité, ce qui est pas le cas dans tous les pays, d'avoir fait cet examen pour dire finalement c'était rien. Ben, le médecin m'avait dit d'ailleurs c'est pour ça que les gens ont l'impression que dès qu'ils ont une grosseur ça va être un truc cancéreux, parce qu'il faut bien le dire tu sais on voit plein de films où le sujet c'est j'ai un cancer, comment va réagir ma famille, comment je vais gérer mon cancer, des bouquins, des films et tout, alors que tu vas pas faire un best-seller ou un film avec j'avais une grosseur et puis finalement ben c'était rien. Voilà, donc c'est aussi un peu ça.
Alors sous-chapitre suivant, la médecine rend malade. Par le biais de traitements superflus, beaucoup d'individus en bonne santé deviennent des patients à long terme. En Allemagne, 40 000 plaintes sont déposées chaque année pour faute professionnelle. La faute ne sera avérée que dans 12 000 cas. Bien souvent, les médicaments peuvent constituer un danger.
Excuse-moi, aussi, je fais une parenthèse. La faute ne sera avérée, il entend par là qu'elle sera reconnue par la justice officielle, que dans un petit nombre de cas.
Reconnue,
ça ne signifie pas forcément que c'était pas avéré, quoi, tu vois. Je veux dire, j'ai vu même autour de moi des cas où des gens ont porté plainte et puis se sont fait retoquer. Mmh. Et ça voulait pas dire que la faute n'existait pas. Tu vois, là il part de l'idée que forcément si ça a été jugé pas avéré, la justice ne peut pas se tromper, c'est impossible, et surtout pas en faveur des médecins. Je suis pas trop d'accord. Ouais.
Oui. Alors chaque année, donc des plaintes sont déposées chaque année pour faute professionnelle. Avéré, ça, moi je pense que c'est reconnu, quoi, tout simplement. Bah,
reconnu officiellement par qui et dans quelles conditions ? Enfin, je suis pas. Je dis pas que c'est forcément pas vrai, mais je dis pas que c'est forcément vrai non plus. Je veux dire, c'est comme tu dirais, les femmes déposent plainte pour viol, mais oui, c'est avéré que dans tant pour cent de cas. Tu
voilà,
dis,
c'est ça.
C'est pas parce que t'as pas de preuve que ça veut dire que ça n'a pas eu lieu. Le fait d'affirmer comme ça que c'est pas avéré parce que ça n'a pas été reconnu par la justice, moi je suis pas d'accord. Je demande à voir ça de plus près, quoi, tu vois. Des fois, il y a non-lieu parce que tu n'as pas pu le prouver, mais...
Ah voilà. Oui. Bon, en tout cas, c'est 12 000 cas sur 40 000, quoi. C'est énorme.
Ça peut vouloir dire que tu as du mal à apporter des preuves, tu vois, des fois.
Voilà,
et ça peut vouloir dire aussi que la justice va être plus favorable aux médecins, en général, et au pouvoir médical, quand même, il faut bien le dire,
qu'aux
patients aussi. Ça peut vouloir dire ça.
Oui, mais c'est-à-dire que ceux qui seront les responsables de cette médication dangereuse, mm-hmm, vont toujours se défendre en argumentant avec des arguments scientifiques, etc. Donc,
Bah, ils se défendent toujours, quand on en a déjà parlé, les scandales médicaux. Ils se défendent toujours en disant, bah, comme pour les viols, tu peux pas le prouver. C'est-à-dire qu'ils disent, vous avez un cancer, vous dites que c'est à cause de l'amiante, par exemple. Voilà. Vous avez un cancer, vous dites que c'est à cause du distilben, tu vois, bon. Mais en fait, si ça se trouve, c'est parce que vous, c'est la faute à pas de chance, ou bien c'est parce que vous fumez, ou tu vois, vous droguez, et vous ne pourrez pas le prouver.
Et puis qu'il y a peut-être d'autres facteurs qui font voilà. que vous êtes dans
Et c'est pas toujours évident hein, de prouver. Pour, donc, en effet... on peut dire que j'aurais pas dit c'est avéré, c'est reconnu, ça m'aurait paru plus juste ouais. parce que ça veut pas dire que ces plaintes étaient forcément sans fondement. Tu comprends, quand tu dis c'est avéré, ça veut dire ouais. C'est vrai.
Enfin, il me Après, c'est traduit de l'allemand, donc peut-être qu'il y a...
Lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y en a qui porte plainte alors qu'il n'y a pas de quoi, parce que les gens seraient hypochondriaques. Mais, enfin, je t'apprends rien, il y a eu des scandales médicaux où il a fallu vachement ramer pour faire reconnaître qu'il pouvait y avoir un rapport de responsabilité, quand même.
Oui.
Bah, par rapport à un médicament, par exemple, ou un médecin. Un médecin qui a fait n'importe quoi. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont pas toujours évidents à prouver. Hein.
Oui. Voilà. Alors, bien souvent, les médicaments peuvent constituer un danger. Il existe 50 000 produits finis dans les pharmacies allemandes, et ce, alors que la liste des médicaments indispensables publiée par l'OMS ne recense que 325 principes actifs. Chaque année, 20 000 personnes meurent en Allemagne à cause d'un médicament. Les effets secondaires de ces derniers sont à l'origine de 2 à 10% des hospitalisations, ce qui engendre des coûts s'élevant à 500 millions d'euros environ. Une analyse américaine révèle encore que les effets indésirables des médicaments constituent la quatrième cause de mortalité dans les pays industrialisés surmédicalisés. Derrière les maladies cardiovasculaires, les maladies tumorales et les attaques cérébrales, mais devant les pneumonies, le diabète et les accidents. On ne sait certes pas si et dans quelle mesure l'invention de maladies encourage cette dangereuse marée médicamenteuse, mais il est plus que fréquent de voir des personnes suivre plusieurs traitements médicamenteux en même temps. Cela paraît presque incroyable, s'exclame le Münchner Medizinische Wochenschrift, mais certains patients peuvent suivre en même temps divers traitements comptant jusqu'à 60 substances différentes. On estime que 22% des effets secondaires sont dus à la prise simultanée et combinée d'un trop grand nombre de médicaments.
Bah, il faudrait là aussi que ça soit plus précis, je trouve, parce que je connais des personnes très très âgées qui en effet suivent plusieurs traitements, mais tu vois, il y a des fois où des gens peut-être font des cocktails médicamenteux qui sont injustifiés, mais c'est parce que bah, ils ont à la fois des problèmes cardiaques, des problèmes vasculaires, des problèmes digestifs, des problèmes de vue, enfin tu vois. Je veux dire, c'est et qui peuvent pas, on peut pas leur dire simplement de les supporter. Et c'est un peu les défauts de ces qualités, je dirais. Effectivement, un bon médecin saurait voir les compatibilités de médicaments, mais faut reconnaître que tout dépend de qui tu parles. Mais c'est un peu la quadrature du cercle, je veux dire, de se dire les médicaments. En effet, de toute façon, tu vois la part bénéfice-risque, mais il y a des gens qui sont réellement malades et qui ont réellement besoin de ces 60 substances. Tu vois ce que je veux dire? Et réellement, c'est un problème de les combiner entre elles, mais en même temps, ce serait un problème de ne pas les utiliser. Enfin, tu vois, j'accuserais pas seulement les inventeurs de maladies dans un cas comme ça, parce que dans les gens qui prennent plein de médicaments, il y a des gens qui ont besoin de plein de médicaments. Enfin, voilà. Je suppose, par exemple, quelqu'un qui a le sida, il a besoin de prendre des cocktails de médicaments, c'est nécessaire. Enfin, et voilà, donc quand tu le dis comme ça de façon un peu trop globale, je trouve, pour moi, ça me laisse perplexe. J'aurais préféré qu'il soit plus précis dans ce genre de cas, par exemple. De qui il parle, qui prend ces cocktails de médicaments. Est-ce que vraiment ce sont des maladies imaginaires et qui ont été créées de toutes pièces pour vendre ces médicaments, ou est-ce que c'est des maladies qui multiples, quelqu'un qui souffre quelqu'un par exemple qui a 100 ans et qui souffre généralement de plein de symptômes et qui a réellement besoin de tous ces médicaments. C'est pas pareil. Ouais,
moi, je pense qu'l'auteur nous laisse deviner que c'est un peu un mélange de plusieurs choses, qu'on a par exemple un discours sur le cholestérol, par exemple, qui va intégrer la personne et va donc accepter un traitement par rapport à ça, mais aussi ça peut être par rapport à la tension artérielle ou des choses comme ça, et qui vont être sérieux parce que, enfin voilà. Enfin moi j'y connais rien, mais
je suis d'accord avec toi. Donc, il aurait dû justement bien. Au lieu de faire un truc, un commentaire global sur par exemple, sur les prises de médicaments multiples, de différencier vraiment les cas, on n'a même pas idée de finalement, moi j'ai pas idée de quelle est la proportion de gens qui se tapent 60 substances différentes parce que c'est leur trip de se droguer, quoi, quasiment, ou même qu'on les a convaincus qu'ils avaient des maladies alors qu'ils en ont pas, et quelle est la proportion de gens qui ont réellement des symptômes insupportables, et puis même mortifères.
Je vois une personne âgée.
Quelqu'un qui a le sida, par exemple, donc ça signifie toutes sortes de pathologies associées.
Il y a tout un pilier avec plein de couleurs, puis voilà, à chaque repas, le matin, le soir, etc. Qui doit être.
Le discours est trop global, je trouve. J'aurais aimé même des statistiques peu plus précises.
Ce qu'on devine aussi, c'est que. Plus on en prend de substances différentes, plus il y a des chances d'avoir des maladies à cause de ces mélanges.
C'est vrai aussi, mais moi je vois par exemple la dame que je connais qui a 96 ans, qui donc effectivement a toute une panoplie de médocs, tu sais, avec un petit pilulier, il faut pas se planter et tout. Quand même détaille quand même pourquoi elle prend ça, c'est absolument justifié. Mais des fois ça arrive qu'elle sente des symptômes désagréables et tu prends le côté bénéfice-risque. D'ailleurs, même pour les opérations, elle peut, tu sais qu'elle sait qu'elle peut mourir de l'anesthésie, et en même temps, elle pèse elle-même le pour et le contre, et pour les médicaments, c'est pareil. Donc, tu peux pas mettre dans le même sac ce type de cas, et puis des gens qui vont prendre des médicaments pour des maladies qui seraient imaginaires. Ces maladies sont pas imaginaires, et il n'y a pas moyen de... elle peut pas se résigner. Si elle se résignait, sa vie serait un cauchemar. Vu que c'est des symptômes qui sont souvent extrêmement handicapants, quoi, tu vois, et qui peuvent même mener à la mort. Donc, elle peut pas faire autrement que de prendre des médicaments. En même temps, en effet, c'est tout un équilibre à doser. Et son cas ne peut pas être mis dans le même sac que quelqu'un qui on a mis dans la tête qu'il avait du cholestérol, des troubles nerveux, des troubles de l'humeur, des trucs qui n'existeraient pas. Et on ne sait même pas quelle peut être, dans ce discours qu'il a lui, quelle est la proportion statistique des uns et des autres. Tu vois, des médicaments, des 60 substances pour vraies maladies et symptômes réellement handicapants et pour des symptômes qui seraient imaginaires. Donc c'est le côté globalisant que je trouve problématique pour moi.
Alors, on va peut-être passer une chanson, enfin un morceau.
Alors, t'as plus de batte conture.
On est sur. je n'en ai pas apporté ce matin, mais on pourra l'apporter la prochaine fois.
Okay.
Ce sera Ronald Shannon Jackson, un morceau intitulé Aged Pain. Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, avec aujourd'hui Sylvie du groupe Libertaire d'Ivry.
Et de l'émission lundi matin.
Ouais. Et exactement, j'ai oublié. Alors, deuxième partie de cette émission, on avait commencé à... lire aussi des passages de la pièce de Jules Romain, Knock. Eh bien, nous vous proposons une nouvelle scène. Et en préambule, donc Dr Knock, c'est une des pièces les plus célèbres de Jules Romain de l'Académie française avec cette pièce a été créée, sa mise en scène a été créée par Louis Jouvet en 1923. Curieusement, il y a plein de choses qui restent d'actualité. L'histoire. Alors donc, l'ancien médecin, docteur Parpalais, a laissé le docteur Knock prendre sa place, et du coup, le changement a été spectaculaire. tellement spectaculaire que la grande salle de l'hôtel de la Clé, ça s'appelle comme ça. C'est là où se passe la scène que je vais vous lire et qui se trouve à la fin de la pièce, de l'acte 3. C'est un grand hôtel du canton de Saint-Maurice qui a été transformé en clinique, tellement Dr Knock a eu beaucoup de clients, de clientèle, et ne savait plus où les mettre. Donc un grand hôtel qui transformé en hôpital. Alors, la grande salle de l'hôtel de la Clé, c'est là que se passe l'action que je vais vous lire. On y doit sentir l'hôtel de chef-lieu de canton en train de tourner au Medical Hotel. Les calendriers de licoristes y subsistent, mais les nickels, les ripolins et linges blancs de l'asepsie moderne y apparaissent. Alors le médecin, le docteur Parpalais, revient rendre visite après une longue absence de 3 mois au docteur Knock.
Donc, a fait exploser sa clientèle.
Oui, exactement. Alors, le docteur arrive et dit la chose suivante. « Vous ne m'accusez plus maintenant de vous avoir roulé. » Alors là, c'est un rappel de la première, du premier acte et de sa scène unique où le docteur Knock lui reprochait de l'avoir un peu roulé parce que, justement, sa clientèle était un peu faible en nombre. Bref. Et là, Knock surenchérit, disant « L'intention y était bien, cher confrère. Le docteur, vous ne nierez pas que je vous ai cédé le poste, et le poste valait quelque chose. » Knock. « Oh, vous auriez pu rester. Nous nous serions à peine gênés l'un l'autre. Monsieur Mousquet vous a parlé de nos premiers résultats ?» Le docteur. « On m'en a parlé. » Knock, fouillant dans son portefeuille. « À titre tout à fait confidentiel, je puis vous communiquer quelques-uns de mes graphiques. Vous les rattacherez sans peine à notre conversation d'il y a 3 mois. Les consultations d'abord. Cette courbe exprime les chiffres hebdomadaires. Nous parlons de votre chiffre à vous, que j'ignorais, mais que j'ai fixé approximativement à 5. » Le docteur. « 5 consultations par semaine ? Dites le double hardiment, mon cher confrère. » Knock. Soit. Voici mes chiffres à moi. Bien entendu, je ne compte pas les consultations gratuites du lundi. Mi-octobre, 37. Fin octobre, 90. Fin novembre, 128. Fin décembre, je n'ai pas encore fait le relevé, mais nous dépassons 150. D'ailleurs, faute de temps, je dois désormais sacrifier la courbe des consultations à celle des traitements. Par elle-même, la consultation ne m'intéresse qu'à demi. C'est un art un peu rudimentaire, une sorte de pêche au filet. Mais le traitement, c'est de la pisciculture. Le docteur. Pardonnez-moi, mon cher confrère, vos chiffres sont rigoureusement exacts ? Knock. Rigoureusement. Le docteur. En une semaine, il a pu se trouver dans le canton de Saint-Maurice 150 personnes qui se soient dérangées de chez elles pour venir faire queue en payant à la porte du médecin. On ne les y a pas amenés de force ni par une contrainte quelconque. Knock. Il n'y a fallu ni les gendarmes, ni la troupe. Le docteur. C'est inexplicable. Knock. Passons à la courbe des traitements. Début d'octobre, c'est la situation que vous me laissiez, malade en traitement régulier à domicile, zéro. N'est-ce pas ? Par palais, esquisse, une protestation molle. Fin octobre, 32. Fin novembre, 121. Fin décembre, notre chiffre se tiendra entre 245 et 250. Le docteur. J'ai l'impression que vous abusez de ma crédulité. Knock. Moi, je ne trouve pas cela énorme. N'oubliez pas que le canton comprend 2853 foyers et là-dessus 1502 revenus réels qui dépassent 12 000 francs. Le docteur. Quelle est cette histoire de revenus ? Knock. Il se dirige vers le lavabo. Vous ne pouvez tout de même pas imposer la charge d'un malade en permanence à une famille dont le revenu n'atteint pas 12 000 francs. Ce serait abusif. Et pour les autres non plus, l'on ne saurait prévoir un régime uniforme. J'ai 4 échelons de traitement. Le plus modeste, pour les revenus de 12 à 20 000, ne comporte qu'une visite par semaine et 50 francs environ de frais pharmaceutiques par mois. Au sommet, le traitement de luxe, pour revenus supérieurs à 50 000 francs, entraîne un minimum de 4 visites par semaine et de 300 francs par mois de frais divers. Rayons X, radium, massages électriques, analyses, médications courantes, etc. Le docteur. Mais comment connaissez-vous les revenus de vos clients ? Knock. Il commence à un lavage de mains minutieux. Pas par les agents du fisc, croyez-le, et tant mieux pour moi, alors que je dénombre 1502 revenus supérieurs à 12 000 francs, le contrôleur de l'impôt en compte 17. Le plus gros revenu de sa liste est de 20 000, le plus gros de la mienne de 120 000. Nous ne concordons jamais. Il faut réfléchir que lui travaille pour l'État. Le docteur, vos informations à vous, d'où viennent-elles ? Knock, souriant. De bien des sources. C'est un très gros travail. Presque tout mon mois d'octobre y a passé. Et je révise constamment. Regardez ceci. C'est joli, n'est-ce pas ? Le docteur. On dirait une carte du canton. Mais que signifient tous ces points rouges ? Knock. C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque point rouge indique l'emplacement d'un malade régulier. Il y a un mois, vous auriez vu ici une énorme tache grise, la tache de Chabrière. Le docteur. Plaît-il ? Knock. Oui, du nom du hameau qui en formait le centre. Mon effort des dernières semaines a porté principalement là-dessus. Aujourd'hui, la tache n'a pas disparu, mais elle est morcelée. N'est-ce pas ? On la remarque à peine. Silence. Le docteur. Même si je voulais vous cacher mon ahurissement, mon cher confrère, je n'y parviendrai pas. Je ne puis guère douter de vos résultats. Ils me sont confirmés de plusieurs côtés. Vous êtes un homme étonnant. D'autres que moi se retiendraient peut-être de vous le dire. Ils le penseraient. Ou alors, ils ne seraient pas des médecins. Mais me permettez-vous de me poser une question tout haut ? Knock, je vous en prie. Le docteur. Si je possédais votre méthode, si je l'avais bien en main comme vous, s'il ne me restait qu'à la pratiquer. Oui. Le docteur. Est-ce que je n'éprouverais pas un scrupule ? Répondez-moi. Knock. Mais c'est à vous de répondre, il me semble. Le docteur. Remarquez que je ne tranche rien. Je soulève un point excessivement délicat. Knock. Je voudrais vous comprendre mieux. Le docteur. Vous allez dire que je donne dans le rigorisme, que je coupe les cheveux en quatre, mais est-ce que dans votre méthode, l'intérêt du malade n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin ? Knock. Docteur Parpalais, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Le docteur. Lequel ? Knock. Celui de la médecine. C'est le seul dont je me préoccupe. Silence. Parpalais médite. Oui, oui, oui. À partir de ce moment et jusqu'à la fin de la pièce, l'éclairage de la scène prend peu à peu les caractères de la lumière médicale, avec un L et un M majuscules, qui, comme on le sait, est plus riche en rayons verts et violets que la simple lumière terrestre. Knock. Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus, neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artériosclèreux. Ce qu'on voudra. Mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace plus, rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un homme bien portant. Le docteur, vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Knock, tandis qu'il s'essuie les mains. Cela se discuterait, car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. Votre objection me fait penser à ces fameux économistes qui prétendaient qu'une grande guerre moderne ne pourrait pas durer plus de 6 semaines. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace, que personne, pas même moi, n'osera aller jusqu'au bout et mettre toute une population au lit, pour voir, pour voir. Mais soit, je vous accorderai qu'il faut des gens bien portants, ne serait-ce que pour soigner les autres, ou former à l'arrière des malades en activité une espèce de réserve. Ce que je n'aime pas, c'est que la santé prenne des airs de provocation, car alors vous avouerez que c'est excessif. Nous fermons les yeux sur un certain nombre de cas, nous laissons à un certain nombre de gens leur masque de prospérité, mais s'ils viennent ensuite se pavaner devant nous et nous faire la nique, je me fâche. C'est arrivé ici, pour Monsieur Raffalins, le docteur. Ah, le colosse, celui qui se vante de porter sa belle-mère à bras tendus. Oui, il m'a défié près de 3 mois. Mais ça y est. Le docteur. Quoi ? Knock. Il est au lit. Ses vantardises commençaient à affaiblir l'esprit médical de la population. Le docteur. Il subsiste pourtant une sérieuse difficulté. Knock. Laquelle ? Le docteur. Vous ne pensez qu'à la médecine. Mais le reste. Ne craignez-vous pas qu'en généralisant l'application de vos méthodes, on amène un certain ralentissement des autres activités sociales, dont plusieurs sont malgré tout intéressantes. Knock. Ça ne me regarde pas. Moi, je fais de la médecine. Le docteur. Il est vrai que lorsqu'il construit sa ligne de chemin de fer, l'ingénieur ne se demande pas ce qu'en pense le médecin de campagne. Knock. Parbleu ! Il remonte vers le fond de la Seine et s'approche d'une fenêtre. Regardez un peu ici, docteur Parpalais. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre. Entre 2 parties de billard, jadis, vous n'avez pu manquer d'y prendre garde. Tout là-bas, le mont Aligre marque les bornes du canton. Les villages de Mesclate et de Trébure s'aperçoivent à gauche. Et si, de ce côté, les maisons de Saint-Maurice ne faisaient pas une espèce de renflement, c'est tous les hameaux de la vallée que nous aurions en enfilade. Mais vous n'avez dû saisir là que ces beautés naturelles dont vous êtes friand. C'est un paysage rude, à peine humain, que vous contempliez. Aujourd'hui, je vous le donne tout imprégné de médecine, animé et parcouru par le feu souterrain de notre art. La première fois que je me suis planté ici, au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons, il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement et des feuillages, il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens et, grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau, car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres. Ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que, pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions, qu'elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, il va sonner 10 heures, que pour tous mes malades, 10 heures, c'est la deuxième prise de température rectale, et que, dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois, le docteur lui saisissant le bras avec émotion. Mon cher confrère, j'ai quelque chose à vous proposer. Knock. Quoi ? Le docteur. Un homme comme vous n'est pas à sa place dans un chef-lieu de canton. Il vous faut une grande ville. Knock. Je l'aurai tôt ou tard. Le docteur. Attention, vous êtes juste à l'apogée de vos forces. Dans quelques années, elles déclineront déjà. Croyez-en mon expérience. Knock. Alors ? Le docteur. Alors vous ne devriez pas attendre. Knock. Vous avez une situation à m'indiquer ? Le docteur. La mienne. Je vous la donne. Je ne suis pas mieux pour prouver mon admiration. Je ne puis pas mieux vous prouver mon admiration. Knock. Oui, et vous, qu'est-ce que vous deviendriez ? Le docteur. Moi ? Je me contenterai de nouveau de Saint-Maurice. Knock. Oui, le docteur. Et je vais plus loin. Les quelques milliers de francs que vous me devez, je vous en fais cadeau. Knock. Oui, au fond, vous n'êtes pas si bête qu'on veut bien le dire. Le docteur. Comment cela ? Knock. Vous produisez peu, mais vous savez acheter et vendre. Ce sont les qualités du commerçant. Le docteur. Je vous assure que... Knock. Vous êtes même en l'espèce assez bon psychologue. Vous devinez que je ne tiens plus à l'argent dès l'instant que j'en gagne beaucoup et que la pénétration médicale d'un ou deux quartiers de Lyon m'aurait vite fait oublier mes graphiques de Saint-Maurice. Oh, je n'ai pas l'intention de vieillir ici. Mais de là à me jeter sur la première occasion venue... Voilà, c'est la fin de la scène.
Bon bah,
et voilà.
Je suggère qu'une prochaine fois, on reprenne encore sur ce bouquin, que tu refasses encore une scène. Il doit en rester, je suppose, il est croustillant.
Ben, pourquoi pas.
C'est très très approprié, effectivement.
Et nous allons donc faire une annonce.
Oui, voilà. Donc, le dimanche 16 mars, donc c'est... Pas dimanche prochain, mais le suivant. Donc lundi prochain, là, puisque on fait, je participerai à la prochaine émission lundi matin, qui est donc de 11h à 13h sur Radio Libertaire. Et on parlera évidemment, on préparera un peu le sujet. Ce sera sur les violences policières. C'est un documentaire qu'on a déjà projeté deux fois. Mais c'est assez central, c'est-à-dire quand on est anarchiste, la question des flics, elle est vraiment au centre des préoccupations. Quand tu es révolutionnaire, tu sais que c'est eux que tu vas retrouver en face de toi si jamais il devait y avoir des émeutes nécessaires, puisque les privilégiés ne se laisseront pas dépouiller, mais bien entendu, les patrons, les propriétaires et les politiciens et les chefs en tout genre ne se défendront pas tout seuls avec leurs petits bras. Donc, il faut qu'ils envoient la milice du capital et de l'État. Mmh. Et c'est pas une mince affaire. Donc, le truc, c'est aussi un peu de court-circuiter tous les préjugés positifs qu'il pourrait y avoir, y compris jusque dans nos milieux, par rapport aux flics, qu'on pourrait baratiner, qu'on pourrait culpabiliser, que si on leur offre une petite fleur, ils vont avoir leur petit cœur qui va être tout fondant. Et d'une manière générale, tout ce que tu peux avoir, par exemple, le fait de crier la police avec nous, le fait de s'imaginer qu'ils attaquent que quand ils ont été provoqués, donc il y aurait besoin de provocateurs pour que... qu'ils attaquent, on a vu de nos yeux, hein, toi comme moi, oui. Qu'ils sont tout à fait capables d'attaquer sans raison. Et c'est en fait un documentaire qui n'est pas du tout, mais pas du tout un documentaire militant. Ça aurait été impossible, si évidemment, que des anarchistes demandent à des... ou même simplement des gens qui seraient opposés à l'idée de police, et il est filmé. C'est donc un documentaire qui, au contraire, est à la gloire des CRS, mais qui, justement, est complètement édifiant. C'est-à-dire qu'on voit ce que c'est que l'entraînement des CRS. C'est aussi pour les gens gens qui s'imagineraient que t'es CRS et que t'as pas trouvé de boulot, donc tu fais ça parce que sinon tu serais dans la misère. C'est tout le contraire, c'est l'élite. C'est extrêmement, c'est vraiment les premiers de la classe dans le domaine de la police, quoi. C'est vraiment un truc que tu choisis. Et je veux dire, la citation, c'est « on est des brutes professionnelles ». Et effectivement, c'est vraiment édifiant de voir qui sont ces gens, quoi. Qui sont ces gens, comment ils sont formés. Moi, c'est un documentaire qui m'avait beaucoup marqué. Et quand les gens l'ont vu, en général, ça change beaucoup ta façon de voir par rapport à toutes les fantasmes que tu pourrais nourrir de venir à bout de cette engeance. Donc, c'est dimanche 16 à la librairie Publico. Et puis, ça sera suivi d'une discussion, hein, la projection. Et c'est à partir de 15h l'accueil. Et la projection, ce sera vers 16h. 16h. Donc, c'est 145 rue Amelot, dans le 11e, métro République, Oberkampf, Fille du Calvaire, la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot. Voilà.
Eh bien, d'accord.
Et à l'invitation du groupe Libertaire d'Ivry. Oui.
Voilà. Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Voilà. Et qu'est-ce que je peux mettre comme... On vous laisse avec la bande passante, voilà.
Chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Cinq chômeurs à se lamenter sur notre malheur en se disant qu'on se taperait bien. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Elle descendait de la montagne, flaque qu'elle nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait coucou les gens. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille. Elle nous fait le coup du zeppelin. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Ah ben nous on était cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, soin de soin. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Passer la ferraille, elle nous fit fumer de sa paille. Sacré bon Dieu, que c'était bien. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Petit jour.
plateau pour la grâce de ses chansons. Le roi lui offrit un blason. Je ne veux pas être noble, répondit le croque-note. Avec un blason à la clé, mon lard.